prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, ces langues venues du ciel.
Pâques. Enfin bon, on ne colle pas non plus aux traditions et aux circonstances du moment du calendrier, en tous les cas. Mais quand même, je pense que ça serait bien que nous puissions évoquer cet événement, parce que c'est un événement biblique, hein, non seulement dans le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, mais je vais surtout parler dans le Nouveau Testament, puisque ça nous concerne. Imaginez-vous quelques instants que quelqu'un vienne pour la première fois dans nos réunions, et puis qu'il entende une langue qu'il ne connaît pas. Alors on a déjà chanté tout à l'heure, hein. Et là c'était une langue qui est connue, c'est de l'hébreu, hein. Mais son voisin de droite, son voisin de gauche, ou voisin ou voisine, se met à parler une langue comme cela, et ça peut être surprenant, hein. C'est vrai que ça peut être surprenant, parce que... Mais c'est tout à fait biblique, et je dirais que c'est éminemment évangélique. Alors j'aimerais justement revenir et venir par un enseignement, on va tâcher d'être bref, parce que c'est une véritable doctrine, hein, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Et ce matin, je voudrais particulièrement axer notre méditation sur ce qu'on appelle le parler en langue. Parce que c'est une grâce, c'est un don, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée, si on sait le gérer. Si on sait véritablement, eh bien, par la sagesse et l'intelligence que nous donne le Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour l'Église. Et je pense que c'est une bénédiction pour le monde aussi, comme on l'a vu dans le chapitre 2 du livre des Actes. Hein, parce que, imaginez-vous, hein, ce qui s'est passé après. Hein, il nous est dit que ce jour-là, 3000 âmes se convertirent au Seigneur. Alors, on n'en est pas là à Saint-Nazaire, et peut-être dans notre pauvre pays de France, mais toujours est-il qu'il faut continuer à enseigner ces vérités fondamentales, ces vérités essentielles de la vie de l'Esprit. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites, qui quelquefois ont été exagérées à juste titre. Il faut bien le reconnaître. Mais je pense qu'un chrétien doit se caractériser par son équilibre, comme celui du Maître, comme celui de Jésus. Alors on va lire tout simplement dans Marc, chapitre 16, et on va lire à partir du verset 17. Vous permettez, je vais quitter ma veste, ça vous ennuie pas? Hein? Il fait chaud. Voilà. Alors, Marc, chapitre 16, verset 17. Et nous allons revenir à ces passages, ce passage fondateur, finalement, de ce que le Seigneur nous communique sur, eh bien, la puissance du Saint-Esprit. Et ça commence par... Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà pour la situation de notre texte. Je reprends ce que nous avons lu, simplement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, notre étude va porter... sur ce phénomène, appelons cela comme cela, dont Jésus fait la promesse à ses disciples d'hier, ceux du livre des Actes, et à ses disciples d'aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, eh bien, les choses nous sont présentées au futur simple, c'est-à-dire dans un avenir proche ou un avenir lointain, et ils parleront. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Église, pour ceux qui croient à l'authenticité de cette parole, eh bien, nous pouvons dire que ces hommes et ces femmes, ces disciples de Jésus-Christ, parle en langue. Et nous allons voir de quelle manière les choses nous sont présentées. Le plan de notre réflexion peut se décomposer comme suit. Premièrement, le parler en langue que l'on appelle en théologie la glossolalie. La capacité de parler des langues que nous n'avons pas apprises. Deuxièmement, qui sont les pentecôtistes? Parce que les premiers pentecôtistes, ce sont ceux de la Pentecôte. À Jérusalem, il y a plus de 20 siècles. C'est l'histoire tout simplement de ces chrétiens baptisés dans ou du Saint-Esprit. Ensuite, troisièmement, c'est la souveraineté de l'Esprit-Saint. Et puis, j'en dirai quelques mots parce que nous n'aurons pas le temps, mais ce que nous avons appelé le pentecôtisme du XXIe siècle, puisque nous sommes dedans, ses antécédents et puis aussi ses caractéristiques. Alors ça peut être intéressant de savoir que, eh bien, le message de l'évangile de Jésus n'est pas mort. Et il faut le rappeler, il faut le dire, et nous allons voir toutes les implications que cela peut avoir dans notre vie. J'aimerais justement bâtir notre méditation sur des textes bibliques ce matin, tout simple. Et il y a d'autres promesses dans le Nouveau Testament. Il y en a dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, eh bien, c'est ce qui nous intéresse en particulier. Le texte de référence, c'est quand même Actes chapitre 2, verset 4, quand il est dit ceci. « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Vous connaissez naturellement, c'est le texte le plus connu. Dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, puisque c'est le livre d'histoire de l'Église, au chapitre 10 et au verset 46, il nous est simplement rapporté que les hommes qui étaient tout autour, ils furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était répandu sur les païens. Ce n'était pas seulement sur les Juifs. Donc ça nous concerne. Car ils les entendaient parler en langue. Un autre texte. Pour progresser, dans le livre des Actes au chapitre 19 et au verset 6, il nous est simplement rapporté, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Encore. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14 et au verset 2, il est dit ceci, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il y a matière à réflexion ce matin. Il y a de la substance à la méditation. Et puis je termine par un dernier texte, il y en a d'autres, on les verra au fur et à mesure. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18, l'apôtre Paul dira, en ce qu'il concerne, dans l'exercice de son ministère, de sa vie spirituelle, il dira, « Je rends grâce à Dieu » de ce que je parle en langue plus que vous tous. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon sur ce qu'on appelle la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue. Dans l'Écriture, le parler en langue n'est pas un phénomène isolé. Parce que, il pourrait y avoir une exception, un cas d'exception, en disant on ne peut pas en faire une doctrine. Mais là, c'est une véritable doctrine que l'on appelle aussi la pneumatologie. Donc, c'est aussi un terme savant, mais les choses ont été, bien sûr, établies. Alors, comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer la chose? Peut-être, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ont besoin de l'apprendre, de ce que c'est vraiment, un phénomène authentique de l'Évangile, c'est très évangélique. Et puis, pour nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, qui parlons en langue, avons besoin peut-être d'un rafraîchissement ou d'un renouvellement. Alors comment l'expliquer? Je dirais simplement avec des mots que c'est une expression par le Saint-Esprit d'une langue. Et dans le texte, il nous est parlé d'un parler, mais c'est une langue. Une langue, et j'ajoute l'adjectif surnaturel. C'est pas quelque chose qui vient de nous. Avec, finalement, que celui qui parle ainsi, une langue qu'il n'a jamais, tout simplement, apprise. C'est une réalité. Et nous parlons en langue, dans un langage que nous n'avons pas appris. simplement. Alors on peut parler d'un miracle. Et vous avez remarqué dans l'introduction de notre texte au verset 17 tout à l'heure, il est dit « Voici les miracles ». Il s'agit bien de quelque chose qui sort de l'ordinaire, donc qui est extraordinaire. C'est un acte de foi. Ça commence d'abord par un acte de foi pour devenir ensuite un miracle. C'est dans la voie normale. Dans la plupart des cas, exception faite le jour de la Pentecôte, mais celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit et pas davantage celui ou ceux qui l'entendent. À moins qu'il y ait une interprétation, mais nous y reviendrons un peu plus loin quand c'est un don de parler en langue avec son interprétation. C'est un don de Dieu, ai-je dit. Un don de Dieu qui laisse à l'écart les capacités naturelles, les capacités humaines, qui laisse à l'écart la pensée et la réflexion de l'homme, où Dieu, eh bien, s'empare de nos vies et nous amène à vivre cette expérience. C'est une manifestation de la pensée de l'Esprit de Dieu qui emploie les organes humains de la parole, l'expression. Ça, c'est quelque chose d'unique qui caractérise l'humanité. Parler. Qui finalement emploie aussi la volonté de l'homme qui va devenir, eh bien, un instrument entre les mains de Dieu. Et puis son esprit, l'esprit de l'homme. Mais nous voyons une chose, puisque la Bible l'étaye, c'est le Saint-Esprit qui est opérant en tout. En quelque sorte, cela comporte un abandon de ma part dans la foi et dans la confiance. Et nous savons que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires et formidables. Donc, la foi qui préside, et nous voyons que Dieu opère toutes ces choses. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous verrez que il y a diversité de dons, diversité de manifestations, et Dieu choisit comme il le veut, parce qu'il est souverain, mais que c'est Dieu qui opère, c'est le Saint-Esprit qui opère finalement, eh bien, ces choses. Alors il y a une grande question maintenant qui est soulevée par notre texte. À quoi sert le parler en langue? Et ça c'est important, parce que nous avons besoin de parler en langue. Alors peut-être que ça n'apparaît pas comme cela. Et je pense que dans les temps dans lesquels nous sommes, où nos églises ont connu un mouvement de l'esprit, je pense qu'il faut faire certainement très très attention à de ce qui a été véritablement, eh bien, un souffle puissant que dans les générations qui viennent, nos enfants, nos petits-enfants, ne viennent à perdre, eh bien, la vision de ce que Dieu a donné, de la grâce, du don que Dieu a donné. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église en général, du christianisme en général. Ou que lorsque nous regardons dans l'Église primitive, il y avait ce parler en langue, il y avait ce baptême du Saint-Esprit, il y avait la manifestation des dons spirituels, il y avait les fruits du Saint-Esprit. Et on s'aperçoit qu'en ce qui concerne le parler en langue et le don du Saint-Esprit, qu'avec le temps, tout ça, ça a été gommé. Excusez-moi. Ça a disparu. À tel point que Dieu, de temps à autre, dans l'histoire, est venu tout à nouveau réveiller son peuple. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'un réveil dans la vie de l'esprit. Et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est une nécessité. Et nous allons nous poser la question, mais à quoi sert le parler en langue? Alors, on va le décliner de différentes façons. Premièrement, le parler en langue est la preuve, et on l'appelle le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, les textes sont là, je ne l'ai pas inventé, les textes sont là. Alors à ce moment-là, cette personne se met à parler en langue. Acte 2 est aussi pour nous le montrer, première fois, et on voit comment ça se passe. Donc, cela en quelque sorte étaye que le cœur de l'homme pécheur a été purifié et qu'il y a bien eu repentance, et c'est une confirmation divine. Maintenant, j'ajoute ceci. Pour mes frères et mes sœurs qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais qui sont repentis, qui sont nés de nouveau, et dont il y a une réalité de vie derrière, de vie spirituelle, et j'en tiens compte. Et je voudrais les rassurer ce matin. Je voudrais leur dire que nous reconnaissons qu'il y a une vie du Saint-Esprit, une vie authentique. Je dirais à l'inverse que quelquefois, il y a aussi des gens et des frères et des sœurs qui sont baptisés du Saint-Esprit, dont la vie spirituelle est une vie fouillie, où ils manquent véritablement, ils parlent en langue, mais il ferait bien aussi d'y ajouter les fruits. Il faut tenir l'équilibre dans tout cela. Parce que beaucoup de confusion a été amenée à travers finalement, eh bien, je suis baptisé du Saint-Esprit, donc je suis un super saint. Ça ne veut rien dire. On a vu des gens baptisés du Saint-Esprit parler en langue qui étaient loin d'être des saints. Je me permets de le dire. Et je voudrais rassurer tous ceux qui sont en attente et tous ceux qui aspirent, eh bien, croyez que nous sommes aussi capables de reconnaître quand il y a une authentique vie de l'Esprit en vous. Ça se manifeste dans la prière, ça se manifeste dans la louange, ça se manifeste tout simplement, eh bien, de différentes façons. La deuxième chose, c'est que c'est une preuve biblique, la preuve biblique du baptême du Saint-Esprit, donc le parler en langue, puisqu'on a parlé d'un signe initial, c'est le témoignage évident, premièrement, de la foi, et deuxièmement, de l'obéissance. Si je m'en tiens à ce que nous dit le livre des Actes, au chapitre 5 et au verset 32, il est écrit ceci, « Nous sommes témoins de ces choses, parce qu'ils les avaient vues et entendues, les disciples, de même que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. » Donc, il y a aussi un caractère de foi, naturellement, et d'obéissance à ceux qui lui obéissent. Le troisième point du parler en langue, c'est qu'il permet de louer et de glorifier Dieu. Il inspire des paroles, écoutez bien, selon toujours, eh bien, le compte-rendu que nous donne l'Écriture sainte, il inspire des paroles sublimes et merveilleuses. Quand vous louez par l'Esprit, quand vous bénissez le Seigneur par l'Esprit, il nous est dit que vous dites des choses sublimes et merveilleuses. Et pour preuve, Actes chapitre 2, verset 11, « Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans la surprise et l'étonnement et se disaient les uns les autres, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Ce jour-là, le parler en langue était compris par la multitude. Vous relirez le texte, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas m'attacher simplement au chapitre 2, parce qu'on va faire on va aller visiter un peu d'autres textes. Mais quand vous remarquez, il nous est dit, il disait des merveilles de Dieu. Donc nous n'avons pas à minimiser le parler en langue. Quand je suis saisi par l'Esprit, que je parle en langue, je peux dire que c'est véritablement à la glorification de Dieu et de Jésus-Christ et de son œuvre de rédemption, de son œuvre créationnelle en ce qui concerne Dieu. Là où notre pauvre langage humain trouve ses limites, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'adorateur que je suis prononce des paroles mystérieuses. Certes, elles sont mystérieuses, que seul le monde céleste et divin peut comprendre. Mais des paroles sublimes et des paroles merveilleuses. C'est pour cela que, quand Dieu baptise du Saint-Esprit, et que là nous exprimons par le parler en langue, que nous soyons conduits dans la louange, dans l'adoration ou dans la prière, nous pouvons dire que l'inspiration n'est pas une inspiration humaine, mais c'est une inspiration céleste et divine. C'est un mystère. C'est pour ça qu'on parle de ça. On a parlé de mystère. C'est un mystère. Mais un mystère pour celui qui sait lire dans l'Évangile, qui sait étudier la Bible, comprendra qu'il n'y a plus de mystère puisque les choses nous sont expliquées. Elles sont mystérieuses pour les incroyants. Elles sont mystérieuses pour l'incrédule qui tombe sur les épîtres de Paul et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et on voit même parfois des théologiens butés sur la chose, ils vont comprendre intellectuellement, cérébralement. Mais quant à l'expérience, quant à la réalité finalement du vécu, ça bute, hein. Il y a quelque chose qui ne passe pas à ce moment-là. Je parlerai à ce moment-là de sublimation de l'adoration en des mots de la langue du ciel. Ouais, ce sont des expressions très fortes. Mais c'est quelque chose qui... Parce que Dieu nous a fait des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, en vérité. Le quatrième point, toujours sur la question « mais à quoi sert le parler en langue ?» C'est que le parler en langue ouvre la porte de la prière et de l'intercession. On a parlé il y a un instant de l'adoration à la gloire de Dieu. Mais il s'agit aussi d'une œuvre que nous avons à faire parce que nous sommes engagés dans un combat aussi. Nous sommes des soldats de Christ et nous avons besoin d'un équipement. On n'envoie pas un soldat à la guerre, on n'envoie pas un soldat au front complètement sans moyens. On va lui donner les armes offensives et les armes défensives. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur nous a dit. Et dans le texte que nous n'avons pas lu tout à l'heure, mais dans Marc chapitre 16, il nous est dit, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Eh bien, c'est justement cet équipement-là dont nous avons besoin pour aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On n'y va pas les mains nues. On y va revêtu d'une puissance qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas une puissance théologique, une puissance humaine, mais une puissance divine. Les preuves nous sont données à travers le livre formidable, le livre des Actes des Apôtres, où on voit le miracle couler des mains de ceux qui sont envoyés. Et nous avons besoin de retrouver la même chose. Alors, on parle à ce moment-là, c'est la porte de la prière et de l'intercession selon l'exactitude de la pensée et de la volonté de Dieu. Et j'affectionne particulièrement ce texte de l'apôtre Paul, quand il est dit ceci, et nous en avons besoin lorsque nous sommes dans des temps de prière, pour nous-mêmes, dans nos maisons, dans notre culte personnel, ou quand lorsque nous sommes réunis ensemble, nous avons besoin de cela. Écoutez bien ce que nous dit Paul. Il dira de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par, dites-moi la suite, des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que ça veut dire, ces soupirs inexprimables, si ce n'est cette langue des anges, se parler en langue, par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs. Il connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des chrétiens, ou des hommes. Et je trouve ça merveilleux. Que je ne suis pas livré à moi-même dans mon pauvre langage humain, mais quand je ne sais plus, quand je ne peux plus, quand je suis vidé de moi-même par différentes circonstances, alors à ce moment-là, je peux me tenir devant Dieu et je me mets à parler en langue. Et je suis porté à prier, à intercéder, à demander la grâce de Dieu sans savoir peut-être pourquoi, pour qui, mais Dieu connaît, parce qu'ils sont des cœurs, et il connaît la pensée qu'il a déposée, par se parler en langue. Et combien d'expériences formidables et merveilleuses. On a entendu des témoignages, où là, eh bien, quelqu'un était en danger, peut-être à l'autre bout de la terre, et il s'est senti porté à ce moment-là, parce qu'il savait qu'il y avait peut-être aux extrémités, eh bien, quelqu'un qui avait eu à cœur un fardeau missionnaire, ou ceci et cela, ou pour un missionnaire, ou pour un pasteur. Ou... On a déjà fait l'expérience. Hein. Dans des moments difficiles de notre vie, quelquefois, eh bien, on a eu, parce qu'on en a parlé après, quelqu'un a dit oui, à tel moment, tel jour ou telle nuit, j'étais poussé à prier pour toi, poussé à prier pour telle ou telle situation. Et quand on revient un petit peu dans notre histoire, on s'aperçoit que c'était précisément, on s'en est sorti parce que quelqu'un a intercédé par l'Esprit. Et c'est formidable. Et c'est extraordinaire. Des gens connus ou des gens qui n'étaient pas connus, peu importe. Prière inspirée qui trouve toujours son exaucement, on l'a vu, puisque Dieu connaît la pensée de l'Esprit, c'est lui qui la donne. Et glorifie Dieu où la parole nous exhorte à pratiquer et à développer. Écoutez bien ce que nous dit Éphésiens au chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit, c'est-à-dire en parlant en langue, toutes sortes de prières et de supplications. » Ou encore dans Jude, au verset 20, il est dit ceci « Pour nous, pour vous, pardon, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Vous voulez avoir une grande foi ? Vous voulez que notre foi, comme on en parlait dernièrement dans nos derniers messages que nous avons partagés ensemble, que Dieu augmente notre foi, puisque c'était le sujet de nos méditations, eh bien, priez en langue, mes frères et sœurs. Et vous allez voir que votre foi va se structurer. Elle va s'enraciner. Elle va devenir, elle va se constituer, votre foi, elle va grandir. C'est pour ça que mes frères et sœurs qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, croyez que Dieu va vous baptiser du Saint-Esprit. Nous avons dans le passé vécu des Pentecôtes où j'ai été amené à prêcher, justement le jour de la Pentecôte, sur la Pentecôte. Et je me souviens d'une fois, il y a quelques années de cela, où il y a eu au moins 400 personnes pendant que je prêchais qui étaient baptisées du Saint-Esprit. Ce jour-là, tout simplement. Ils sont venus me voir après le culte en disant « J'ai été baptisé du Saint-Esprit ». Vous savez, ce n'était pas le prédicateur qui a fait ça. C'est parce qu'ils recevaient la parole, ils la recevaient avec foi. À ce moment-là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Et c'est vous pouvez l'être en ce moment même. Ne doutez pas et ne laissez pas l'adversaire vous détourner. Parce que c'est pour vous. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pour vous. Et je vous encourage en tous les cas. Quand Paul dit à Timothée « Ranime le don de Dieu ». Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y avait certainement bien de choses à dire, mais il y avait entre autres, ranime la flamme du don de Dieu. Et nous avons besoin les uns et les autres à ce moment-là, nous qui sommes déjà baptisés du Saint-Esprit, d'être ranimés dans la flamme de la vie de Dieu, du feu de Dieu. Puisque Jean-Baptiste présentera celui qui vient après lui, il dira, il vous baptisera de feu et d'esprit. Je ne vous raconte pas des histoires, c'est biblique ce que je vous dis ce matin. Le cinquième point, pourquoi le parler en langue? Pourquoi parler en langue? C'est que le parler en langue édifie le chrétien ou le croyant. Vous savez ce que Paul écrit dans Corinthiens? Il dit ceci, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Vous voulez vous construire? On parlait de la foi tout à l'heure, on parlait de la prière, on parlait de l'adoration. Mais vous voulez vous construire? Vous luttez peut-être contre des états de dépression, on connaît. Vous luttez peut-être contre une passion, contre un péché, contre une tendance, contre des faiblesses, contre toutes sortes de choses qui vous rendent vulnérable. Eh bien le seul moyen, c'est pas de vous débattre comme cela, en faisant n'importe quoi, et puis non. C'est que vous mettiez à part et que vous vous teniez devant le Seigneur et que vous priez en langue. Parce que vous allez vous édifier vous-même. Et là où il y a toutes ces vagues déferlantes de toutes sortes de choses qui viennent sur votre vie, alors à ce moment-là, vous allez les enrayer au fur et à mesure. Tous ces états, ce stress, cette déprime quelquefois qui nous tombe dessus et elle vient, on sait d'où elle vient cette déprime. Vous mettez dans un endroit tranquille, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors vous verrez la différence. Vous savez, je le dis, je le redis, vous allez dire que je commence à vieillir parce que je reviens un petit peu sur les choses. Mais attendez, j'ai encore bon pied, bon oeil. Mais une chose qui est certaine, c'est que je ne pourrai jamais faire, je vous le dis franchement, ce que je fais avec la grâce de Dieu, et je le fais modestement, parce que je ne me prends pas pour... Mais c'est vraiment la grâce de Dieu, et parce qu'il y a le Saint-Esprit qui me conduit et qui me dirige. Autrement, je ne pourrais pas le faire, et je ne saurais pas le faire. Et c'est vrai pour vous. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Si le Seigneur à la Pentecôte a envoyé ses disciples et qu'il les a baptisés du Saint-Esprit tout de suite après, c'est qu'il savait. Les combats, les luttes, mais aussi les victoires, les triomphes sur le monde des ténèbres et toutes sortes de choses. Alors, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cela signifie que nous possédons maintenant une source au milieu de la stérilité ambiante, c'est-à-dire ma propre vie naturelle, mon humanité à laquelle nous pouvons sans cesse recourir, source intérieure d'où jaillit des eaux fraîches, c'est-à-dire édifier, construire, s'instruire, s'affermir et se fortifier. Est-ce que Jésus ne l'a-t-il pas promis à une femme qui se trouvait auprès d'un puits? Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Si tu connaissais le don de Dieu, et il lui parlera après de fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Le baptême du Saint-Esprit, il nous est donné. C'est pas le Saint-Esprit avec nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand Jésus nous en parle et l'enseigne à ses disciples avant de mourir, il dira dans Jean chapitre 14 et au chapitre 16, il dira, mais le Saint-Esprit n'est pas avec vous, il sera en vous. Source d'eau vive qui jaillisse jusque dans la vie éternelle. C'est une expérience. Une expérience à vivre et une expérience à revivre en permanence. Que le Seigneur nous aide parce que nous sommes bien faibles. Nous avons de grandes lacunes et je me mets le premier aussi à dire que j'ai aussi des lacunes dans ce domaine. J'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'être visité. Alors en vous le disant, je me le dis à moi-même. Comme ça, c'est bien. Des fleuves d'eau vive couleront. Un autre point, sixième point, c'est que le parler en langue est une prière en esprit en dehors de l'entendement humain. Oui, prière en esprit. Je peux prier avec mon langage, c'est-à-dire en français, pour nous. Mais je prie aussi en langue, dans une langue que nous n'avons pas, je n'ai pas apprise. Et Paul affirme ceci, pour étayer justement que c'est une prière en esprit. Si je parle en langue, dit Paul, mon esprit est en prière. C'est mon esprit. C'est pas seulement mon cœur, c'est pas mon âme. C'est pas mon corps dans la gestuelle religieuse. Mais c'est mon esprit qui est en prière. Mais alors à ce moment-là, Paul nous prévient que mon intelligence demeure stérile. C'est pas quelque chose de cérébral ou d'intellectuel. Non. C'est-à-dire que mon intelligence reste inactive. Alors il dit, pour garder l'équilibre en toute chose, il dit, je prierai donc par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Dixit Paul, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Deux possibilités offertes à ne pas négliger, toutefois la prière par et dans le Saint-Esprit est de loin celle qui ouvre les portes du royaume surnaturel et du royaume miraculeux de Dieu. On fait des expériences avec le Seigneur. Et très souvent, lorsque nous sommes conduits dans ce genre d'aventure, combien on se sent démuni, combien on se sent vidé, fatigué, lassé. On n'en peut plus. Alors à ce moment-là, eh bien, on change. On abandonne ce qui est humain pour venir nous abandonner, pour venir nous répandre en Dieu. Et c'est lui qui nous donne ce que nous n'avons pas. Alors, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Mais quelquefois, mon intelligence, elle bute. Il y a des limites, parce que je ne suis qu'un homme. Et à ce moment-là, lorsque je suis saisi par la vie de l'esprit, Dieu m'introduit dans son royaume, je le répète, surnaturel et miraculeux. Et nous avons vu des choses, et nous avons expérimenté des choses, et vous avez vécu aussi vous-même des choses formidables dans cette dimension. C'est une réalité pour nous aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a 2000 ans. C'est pour nous aujourd'hui, naturellement. Puisque la Bible nous dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères, on en a parlé. Parce que celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur. Moi, je ne connais pas tous les sujets de prière, mais il nous est arrivé, il nous arrive encore, d'avoir à un moment donné de prier, d'avoir envie de prier pour quelqu'un. Et on ne sait pas comment prier, parce qu'on ne connaît pas sa situation. On ne sait pas si elle est bien, si elle est mal, si elle est en danger, si elle a besoin de ceci et cela. Mais on sent qu'il faut prier pour un nom, pour une personne. Et c'est comme un fardeau. Vous savez, ça c'est pas le jeûne conditionné. Hein. Je dis, c'est le jeûne dans lequel on est conduit par la vie de l'esprit, hein, tout simplement. Et on prie, on pleure peut-être, même parfois. L'esprit nous amène à pleurer, peut-être, dans certains cas, pour certaines personnes, pour son salut, pour qu'elle soit délivrée. Un autre point, c'est que le parler en langue, écoutez bien, là, ça va nous faire du bien, procure le repos. On a souvent présenté les choses comme une gesticulation et une animation un petit peu... Non. Le parler en langue, bibliquement parlant, procure le repos. Pour notre esprit et notre vie mentale, notre vie psychique, lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous sommes fatigués. Encore un texte très beau, c'est dans Ésaïe. Alors c'est l'Ancien Testament, mais ça n'a pas d'importance, puisque les choses étaient contenues en forme de bourgeon dans l'Ancien Testament pour éclore dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que la fleur vient à maturité dans le Nouveau Testament. Alors dans Ésaïe, au chapitre 28, écoutez ce qu'il les est dit, et vous allez reconnaître que là, il y a quand même parlé en langue. Au chapitre 28 et au verset 11 et 12, il est dit, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. » Je connais le contexte historique aussi. Hein. Faut tenir compte hein, de l'histoire, là. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais néanmoins, il y avait un contexte historique du moment, mais il y avait aussi une perspective, une prédiction pour les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Et il est dit ceci, c'est par des hommes aux langues balbutiantes et au langage barbare. C'est ça le parler en langue, hein, si vous voulez le comprendre de cette manière. Hein, que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Ça, c'est un texte qui fait du bien. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est un texte qui fait du bien, parce que lorsque je me tiens devant Dieu en parler en langue, tranquille, paisible, ça me fait vraiment du bien. Mais malheureusement, en ce qui concerne Israël, dans le contexte du temps d'Ésaïe, il dit, mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est bien dommage. Ils n'ont pas voulu écouter. C'est là le lieu de repos. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné, un lieu de repos. Et ce lieu de repos, c'est lorsque je me retrouve devant toi à parler en langue. Rempli de ton esprit. Rempli de ton Esprit Saint. C'est un vrai repos pour celui qui est fatigué. C'est un ressourcement divin que de prier par le Saint-Esprit. Et si nous avons notre part à faire, si Dieu fait beaucoup de choses, en tous les cas, sachons nous arrêter. On est dans un monde de folie, un monde de trépidation, un monde endiablé. Alors, il faut que nous, chrétiens, on ait quand même une raison autre, parce que nous appartenons au Seigneur, et sachons nous arrêter de la folie, de nos agitations, et parler en langue. Surtout qu'on peut le faire dans n'importe quelle situation. On peut parler en langue, même pendant que je prêche, vous pouvez parler en langue, on en parlera d'ici quelques instants, mais si vous le faites discrètement. On peut parler en langue à notre travail, dans la mesure où vous ne rentrez pas en parlant en langue, dans le bureau de votre patron, parce que là, il va vous embaucher pour les traductions. Hein. Enfin, bon, vous pouvez parler en langue quand vous avez un voyage à faire en voiture, qu'est-ce que vous avez? Ça ne dérange pas. Voilà. Vous pouvez parler en langue dans n'importe quelle situation, pourquoi pas? Ça n'a pas d'importance, mais de pouvoir nous laisser remplir du Saint-Esprit et arrêter un peu cette folie qui nous entraîne à notre destruction. Un autre point, le don du parler en langue édifie l'Église. Alors, ça m'édifie moi-même, mais ça édifie l'Église avec l'aide du don d'interprétation. C'est ce que nous vivons le dimanche matin ou le mercredi soir dans notre réunion de prière, ou encore exceptionnellement dans nos réunions d'évangélisation, mais dans nos réunions plénières d'Église. Alors, le parler en langue, s'il y a le don d'interprétation, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a encore des nuances à faire, mais on n'a pas le temps ce matin. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, il est dit ceci. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Mes frères et mes sœurs qui parlaient en langue, eh bien, mais ça fonctionne, je l'ai vu. Ne laissez pas aux autres le soin d'interpréter. C'est très bien, hein, mais c'est encore mieux quand c'est vous qui le faites. Vous donnez un parler en langue, et bien vous interprétez après. Très bien. Celui qui prophétise nous dit toujours la parole est supérieur à celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église n'en reçoive de l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Et là, je vais marquer quand même un fait. Ça fonctionne relativement bien dans l'ordre à Saint-Nazaire. Mais je peux vous dire que dans certains cas, c'est terrible. À tel point que certaines églises, où j'ai pu contacter des pasteurs en disant « Maintenant, moi j'arrête tout. Hein. Les dons spirituels, c'est terminé. Hein. » Il y a eu tellement de choses. Mais enfin bon, c'est au pasteur aussi de savoir gérer, hein, de conduire le culte et de pas laisser faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Parce qu'il faut toujours penser que nous sommes là, nous sommes au courant. Mais quand il vient une personne pour la première fois, imaginez-vous un peu ce que ça donne. Que tout se fasse pour l'édification. Et ça devrait être toujours la conduite, ça devrait être toujours la pensée qui doit, eh bien, nous diriger. Est-ce que j'édifie ou est-ce que je n'édifie pas? Important. Ce dernier mot nous amène maintenant à considérer l'aspect pratique du parler en langue. Il devrait être exercé et abondamment pratiqué. Oui. On devrait pouvoir tous manifester, bien sûr. Par tous les chrétiens. Il n'y a pas de favori, il n'y a pas de... Non. Il doit être discret en assemblée. je tiens à le dire, pour ne pas gêner et permettre l'exercice du don du parler de diverses langues, de l'interprétation, c'est quand ça s'en va dans tous les sens, ou du don de prophétie. Je dis bien qu'il doit se manifester, il doit être encouragé à se manifester, mais ça ne doit pas être un champ de foire. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 versets 33 et 39, il est dit ceci: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, quel témoignage, mais un Dieu de paix. Un Dieu de paix, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec ordre et bienséance. Alors on a tous compris, hein, ce que ça veut dire. C'est important. Un autre aspect, c'est que le parler en langue est un excellent moyen de grâce pour être rempli dans la vie du Saint-Esprit. Et il y a un terme dans la Bible employé par Paul, c'est le mot plénitude. On a une petite idée de ce que veut dire la plénitude. Rempli et qui déborde. Ouais. Plénitude du Saint-Esprit, ça va avec justement. Dans Éphésiens chapitre 5 et verset 18, il est dit cette parole: soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur et rendez continuellement grâce à Dieu. Pour être rempli. Alors on peut parler d'une dimension de puissance, de liberté et d'une dimension d'aisance, où il y a un bien-être, où il y a un confort, où là il y a la joie. C'est triste une église où les gens sont baptisés du Saint-Esprit, sont tristes comme, je ne sais pas moi, à quoi on pourrait comparer, hein? Des fées, grognons, se plaignant, gênant. Non, le Saint-Esprit qui nous remplit, c'est le Saint-Esprit nous apporte la joie. Et d'ailleurs, parmi les fruits, on n'en parlera pas ce matin, mais parmi les fruits, on en a vu dernièrement, mais parmi les fruits, il y a la joie et la paix. Et mes frères et sœurs, si on est rempli du Saint-Esprit, eh bien au moins, on se sourit les uns les autres. Et pas commercialement. Oui, oui. Et ça doit être une caractéristique, et c'est quand même dommage, dans une église où il y a les dons de l'esprit, où on voit que des gens tristes. Hé, mais comment les gens de l'extérieur vont venir? S'ils nous voient avec vraiment des faits en disant, bah oui, bah si c'est ça le christianisme, c'est comme ça que d'ailleurs le christianisme historique est tellement critiqué et rejeté aujourd'hui. On doit pouvoir communiquer finalement quelque chose de formidable, on doit pouvoir communiquer la vie, la joie et la paix. Et les gens doivent le sentir. Et je sais qu'il y en a, vous le manifestez cette joie. Et il faut continuer comme cela. Ouais. Parce que là, c'est la démonstration que vous êtes rempli de puissance, de liberté, d'aisance. Alors ça vous donnera cette aisance et cette facilité pour adorer le Seigneur spontanément. Je suis toujours en train de vous dire, mais allez-y, prenez votre place pour la prière ou ne laissez pas de temps blanc. Prenez. On devrait se bousculer les uns les autres pour prier et louer le Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, vous m'avez répondu oui, maintenant vous êtes obligé de faire. Hein. Ah ben non, mais j'ai entendu. Hein. Bon, adorer, prier, cette aisance pour remercier le Seigneur, pour témoigner, pour prêcher, pour prophétiser avec assurance et sous l'onction du Seigneur. C'est ça dont nous avons besoin. Alors, à nous d'en tirer parti pour la gloire de Dieu. Puis je termine. Enfin, le parler en langue, abondamment exercé, doit devenir quelque chose de clair. Ouais, parce que c'est quand même mystérieux. Mais ça doit donner un message de clarté, de lumière. Un message qui apporte la révélation. Ça fait partie aussi, ça, des dons. Puisqu'il est question des dons de révélation, avec la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Mais on verra ça une autre fois. Veillons à ne pas céder au psychisme, où malheureusement trop d'églises sont tombées dans la confusion entre le spirituel et le psychisme. Et ce qu'on appelle spirituel, ce n'est que du psychisme. Le psychisme, je le rappelle, c'est l'émanation de l'âme, du cœur, des sentiments, de l'affect. Mais ça n'a rien à voir avec la vie d'esprit. Alors attention de ne pas tomber dans le piège du psychisme ou des émotions physiques excessives et incontrôlées. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit « Si donc, dans une assemblée, tous parlent en langue, c'est formidable, et qu'il entre un incroyant, ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous ?» Parce que ça s'en va dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut de la modération. Et qu'il faut que les choses soient conduites. Et quand il y a des prophéties, alors il y a des choses que je ne veux pas entendre. Hein. Mais il nous est bien dit dans la parole que l'esprit des prophètes soit soumis, pardon, que l'esprit des prophètes, pardon, oui, soit soumis aux prophètes. On a quand même la maîtrise. Hein. On ne peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi en disant, bah oui, c'était plus fort que moi. Moi, je ne l'accepte pas, ça. Parce que même si, quand on est conduit dans l'esprit, eh bien, on a quand même encore la maîtrise de soi-même. Dieu ne nous a pas fait des robots ou, vous savez, des instruments. Moi, j'aime pas le mot. On n'est pas des instruments. On est des agents vivants du Saint-Esprit. Et on a encore une réflexion pour dire, eh bien, voilà, attention, il faut savoir où sont les limites. L'exercice de la vie de l'esprit, toute manifestation charismatique, c'est-à-dire les dons spirituels, hein, ou expression de notre piété évangélique, je dirais évangélique et pentecôtiste, doit rester crédible si nous voulons voir des gens venir. Elle doit rester scripturaire, on n'invente pas n'importe quoi. Et elle doit rester décente et spirituelle, au sens où elle ne doit en aucune façon tourner au ridicule, à la caricature et entacher le témoignage que nous nous proposons et avons mission d'apporter autour de nous. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront. Ils parleront, entre autres, en d'autres langues. Ils parleront en langue. Il faut rester dans la conduite que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est important. C'est quelque chose d'essentiel. Parce que notre mission, c'est une mission de témoignage. Une démonstration de puissance et d'esprit. Et pas n'importe quoi. Alors attention à une trop grande liberté que nous appelons une liberté dans l'esprit, qui n'en est pas une. Et même si elle est authentique, cela peut choquer gravement les autres, et on n'a pas le droit de choquer les autres. Non. On ne peut pas dire, eh bien moi je vais pousser un peu les choses comme ça, et puis tant pis, on n'a pas le droit de choquer la conscience des autres. Il faut respecter la conscience des autres, et c'est l'élémentaire de la tolérance, et la tolérance c'est quoi? C'est aimer son prochain. C'est pas parce que j'ai des dons, c'est pas parce que j'ai ceci et cela, que je dois lui balancer des choses qu'il ne peut même pas supporter, et qu'il ne supportera pas, et qui vont le faire sortir, et qui vont peut-être le priver de rentrer dans le royaume de Dieu, à cause de mes inconséquences. Ah oui, je suis fort. Mais c'est pas parce qu'on est fort qu'il faut utiliser sa force. Il y a une chose que nous pouvons utiliser, c'est notre amour. Alors ça fera jamais de mal à personne. C'est peut-être un peu plus difficile. Je termine, ça fait deux fois que je le dis, le parler en langue est une véritable langue, et non le débit de son incohérent provoqué par une intense sensibilité religieuse, voire une excitation d'origine charnelle. Ce n'est pas ça le parler en langue. On l'a vu tout à l'heure, c'est une langue dans l'esprit. Une langue céleste et divine. En conséquence, l'impératif est de ne pas rester des enfants. Et nous sommes tous exhortés à devenir des hommes faits en Jésus-Christ, des adultes, avec une maturation, avec une maturité spirituelle. Donc, à ne pas rester des enfants dans la pratique du parler en langue. Et je voudrais rappeler une chose qui nous est propre à chacun, c'est que nous avons tous parlé le balbutiement des bébés. Vous en souvenez? Non, hein, c'est quand même assez vague. Hein. Le balbutiement des bébés. Mais une chose qui s'est passée, et heureusement, c'est heureux pour chacun d'entre nous, c'est que nous avons après, par la suite, appris à parler. Et si vous parlez en langue, et quand vous commencez à parler en langue, eh bien, ne vous arrêtez pas en disant « mais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, ceci et cela ». Eh bien, c'est en pratiquant, c'est en développant votre langue que vous verrez, elle va se développer. Et vous serez étonné de voir que c'est une langue constituée, que vous ne comprenez pas, mais avec des mots, avec toutes sortes de choses qui constituent cette langue. Souvent, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit dans le premier temps, ils disent « mais je dis qu'un mot, je ne sais pas ce que je dis, et ceci et cela ». Alors on les exhorte, on leur dit « mais continuez à parler en langue, vous allez voir, ça va se développer de plus en plus. Et vous allez être inondé, vous allez être revêtu de cette puissance, de cette plénitude. Et plus vous parlerez en langue, comme Paul le dit, je sais que je parle en langue plus qu'aucun d'entre vous. Que le Seigneur nous donne de rentrer dans cette sainte concurrence. » de pouvoir parler les uns et les autres plus que les uns que les autres. Ouais. Alors, nous l'avons appris. Nous avons appris à parler notre langue. Et bien, c'est pareil. Et maintenant, c'est une nécessité de nous enrichir et de nous affermir par le Saint-Esprit. Alors je dis, et pour terminer sur cette pensée, alors la prière, la louange, l'adoration, les dons spirituels, les fruits se manifesteront et seront exercés et n'en seront que plus clairs et efficaces. Et tout cela au bénéfice du témoignage, au bénéfice et à la gloire du nom de Jésus-Christ qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous stimule véritablement à rentrer tout à nouveau dans cette dimension. Alors, c'était une étude biblique, hein, exhortatif aussi, mais que Dieu véritablement nous conduit sur ce chemin-là, parce que c'est le chemin qui mène au ciel et qui nous ouvre déjà les portes du ciel avant que nous y soyons. Alors, nous allons simplement prier, demander à Dieu qu'il nous fasse grâce aux uns et aux autres.